midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure tous les jours pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes, nous sommes ensemble, les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur ceux qui parient sur les jeunes pousses, qui les aident à grandir, ils investissent, ils y croient pour aider nos entreprises tricolores. Il est un des grands noms des sites de rencontres. Il est français, aujourd'hui mythique à 18 ans et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous ne voulez peut-être pas divulguer votre numéro habituel et si vous passiez par une ligne éphémère, ça s'appelle Ligne Bis et c'est la solution. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous avez la parole, vous êtes les bienvenus, c'est votre émission. Venez nous dire, par exemple, Anissa, si vous êtes entrepreneur, comment vous avez fait pour obtenir des financements et des soutiens en matière d'investissement.
Et vous pouvez poser aujourd'hui toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Ils aident les entreprises à grandir. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir, poser vos questions, témoigner sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Et oui, c'est eux qui sont en coulisses et qui aident ces entreprises. On va les accueillir d'ici un instant pour les accueillir avec moi, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Sylvain Lambert du cabinet PwC qui a lancé évidemment le mouvement Let's Go France. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Alors si je vous dis BPI France, vous en avez évidemment tous entendu parler, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière le cycle ? Bonjour Nicolas Dufourcq, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la Banque publique d'investissement. Vous la dirigez depuis sa naissance, hein, 2013. Aujourd'hui, vous êtes partout. Vous avez combien de salariés, dites-moi ?
Alors on a 3000 salariés et on a surtout énormément de partenaires autour qui travaillent avec nous. Et qui sont alors, toute la profession bancaire, beaucoup de consultants qu'on envoie dans les entreprises, hein, et beaucoup de réseaux associatifs avec lesquels nous travaillons, notamment en direction de la création de l'entreprise.
Alors au départ, quand la BPI France naît, l'idée c'est de créer véritablement un guichet unique, un lieu unique où finalement toutes les entreprises peuvent venir frapper et demander des choses différentes parce que tout n'est pas évidemment à la même dimension quand on est une TPE ou quand on est une PME.
Absolument. Absolument. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est la simplicité pour l'entrepreneur. Donc ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'il n'y a pas de question de taille. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que la BPI, c'est uniquement pour les startups, par exemple, tech. Et il ne faut pas qu'ils s'imaginent que la BPI, c'est seulement pour les grosses PME ou les entreprises de taille intermédiaire. La BPI, c'est absolument pour tout le monde. Tout le monde.
Voilà. Oui, parce que c'est le regroupement de ce qu'on appelait à l'époque OSEO, le FSI, la CDC.
Voilà.
Donc trois entités différentes.
Oui, et puis on en a rajouté depuis.
Oui.
Mais effectivement, vous prenez contact avec votre agence régionale, puisqu'on a un modèle régional avec 50 agences, et vous pouvez engager un dialogue business, quelle que soit la taille de votre entreprise, sans même trop savoir ce que vous allez chercher. La seule chose que vous savez, c'est que vous voulez vous développer. La seule chose que vous sentez, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus. Et nous, on va vous aider à le faire.
Donc vous intervenez au départ, mais aussi à n'importe quel moment de la vie d'entreprise.
À n'importe quel moment, on soutient des entreprises qui ont 2 salariés et on investit chez Peugeot. Donc en fait, à partir du moment où c'est une entreprise, et quelle qu'elle soit, BPI France est indiquée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des prêts, on entre au capital des entreprises, on envoie des missions de conseil pour aider l'entrepreneur à être un tout petit peu moins seul, parce qu'en fait, le gros problème, c'est la solitude absolue de l'entrepreneur français. Hein. Et on le convainc que son potentiel de performance et de croissance est très au-dessus de ce qu'il pensait, donc on lui donne confiance en lui. Hein. Et ensuite, on met toutes sortes d'outils à sa disposition.
80 000 entreprises aidées l'année dernière ?
Oui.
C'est beaucoup.
Absolument, on a fait à peu près 20 milliards d'euros de crédit et on a investi au capital des entreprises à peu près 2 milliards d'euros.
Que dit notre coach ?
Si je suis entrepreneur, je vais voir mon agence régionale de BPI France. Quels sont les critères ? On voit qu'il y a 80 000, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des critères à réunir pour séduire, entre guillemets, BPI France ? Comment vous décidez d'aller sur tel ou tel dossier ?
Alors d'abord, tout est centré sur l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il ait la bonne énergie, l'ambition et la rigueur. Hein. Alors, ensuite, ça dépend des produits, mais si vous voulez faire un prêt à une entreprise, il faut qu'on soit sûr quand même qu'elle peut le rembourser. Voilà. Donc une entreprise qui perd de l'argent, ça va être difficile de lui faire du prêt. En revanche, on peut lui mettre du capital. Si on pense qu'elle est en très forte croissance et que donc elle perd de l'argent parce qu'elle est en très forte croissance, mais qu'elle a une très belle technologie, ça nous intéresse de mettre du capital chez elle. Voilà. Et donc, tout dépend de la situation. En revanche, un entrepreneur qui pense que BPI France, au fond, c'est la sécu, quoi. On vient, c'est un guichet, on va chercher... Ça ne marchera pas.
Elisabeth, je voudrais qu'on s'intéresse justement aux ambitions de la France. Elle essaye en ce moment de se mettre, et on le voit, hein, au même niveau que d'autres pays, des pays d'entrepreneurs.
Oui, à l'image de la Silicon Valley ou d'Israël, la France doit devenir l'une des patries de l'innovation. Et je crois que c'est valable avec la feuille de route, elle est assez claire. Hein. Elle est valable aussi, j'imagine, pour les critères de choix de vos entreprises au niveau de la BPI. Il y a la transition énergétique, le tourisme, l'internationalisation, la modernisation des usines. Je crois que ça fait partie de vos feuilles de route dans le choix des entreprises. Et d'ailleurs, je crois savoir que le président de la République vous a mandaté pour accompagner aussi les entrepreneurs en banlieue. Dans le cadre de la nouvelle priorité de l'État en faveur des quartiers prioritaires de la ville. Donc vous êtes, c'est très large finalement.
C'est ce que je veux dire. Effectivement, c'est extrêmement large, donc on peut tout à fait accompagner une entrepreneuse de première génération d'immigration d'origine malienne qui monte son entreprise de salon de coiffure à Aubervilliers. Jusqu'à une star, une pépite de la French Tech, en passant par des grands groupes familiaux industriels qui ont plusieurs centaines d'années d'antécédents. Voilà. Donc c'est toute l'économie française que nous finançons. Il se trouve qu'on a des spécialités qui sont en effet la transition énergétique, la technologie, une grosse banque de l'industrie aussi, la banque de la French Fab, BPI France.
Ouais, justement, il y a des actions avec la French Fab qui sont en cours, qui ont démarré au mois de janvier et qui sont importantes, qui vont durer.
Et typiquement, ce qu'on a fait avec la French Tech il y a 5 ans, on le fait maintenant avec la French Fab, ça consiste au fond à donner confiance aux entrepreneurs français.
On va aller promouvoir l'industrie et montrer aux jeunes qu'il y a de quoi faire encore en France.
Donc
dans
on promeut
tissu-là.
Auprès des jeunes, on promeut à l'étranger, mais il faut d'abord promouvoir auprès de nous-mêmes et qu'on ait absolument conscience du fait qu'on est un très vieux pays industriel avec une qualité technologique dans les arts mécaniques qui est exceptionnelle et que donc le moment est venu d'avancer. On fait aujourd'hui 12% de notre produit intérieur brut dans l'industrie. On peut parfaitement remonter à 15, 16, 18 et peut-être même 20. Et c'est dans notre tête que les choses se passent, d'où le lancement de cette marque French Fab, d'où le fait que nous faisons une tournée de 60 villes de France avec notre caravane de forains. On a trois bus, trois tentes et on installe tous les deux jours. Donc on était à Valenciennes hier, on va aller à Pithiviers, on sera à Bourges, on va aller à Épinal.
Oui, parce qu'il y a des talents partout finalement, il y a des gens à aider partout.
Où vous allez en France, vous trouvez des entrepreneurs de qualité, partout.
On reste ensemble, on continue justement à regarder qui aide nos entreprises françaises à se développer aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08. Europe 1.
Et pour accompagner les entreprises, les financer, d'autres entreprises sont là. C'est le cas par exemple d'Euraseo qui a fait de l'investissement sa mission depuis maintenant 150 ans.
La France bouge tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. La France bouge grâce aux entreprises et il y a ceux qui aident ces entreprises à faire bouger la France. Vous les recevez aujourd'hui, Raphaël, et vous pouvez vous aussi leur poser toutes vos questions. 3921, le standard d'Europe 1, hashtag Europe 1.
Quand on est une TPE, une start-up, une PME, il y a toujours un moment où on a besoin d'aller chercher des financements. Et pour ça, il y a des spécialistes. Bonjour Olivier Millet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du directoire d'Euraseo. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Euraseo, eh bien c'est une entreprise, mais spécialisée dans le financement des autres. Ça fait 150 ans, si on remonte véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, aux origines, mais on va venir un petit peu plus près de nous. On va s'arrêter peut-être dans les années 2000, début des années 2000. Ça démarre avec le mariage d'Azeo et d'Eurafrance, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ça. Et à partir de cette époque, il y a tout un chemin de transformation qui met à disposition de l'économie française et européenne une somme d'argent qui est assez significative, puisque Euraseo est aujourd'hui une société cotée en bourse. Elle fait partie du SBF 120. Elle est en position numéro 60. Donc, c'est la 60e capitalisation de la Bourse de Paris. On connaît le CAC 40. Bah vous rajoutez 20, vous tombez sur Euraseo. Sur un métier, on connaît le métier de banque, par exemple, parce que c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Et on essaye de faire découvrir maintenant qu'il y a un autre métier qui est le métier d'actionnaire. Donc, est-ce que actionnaire, c'est un métier ? La réponse est oui.
Ça veut dire qu'on peut tous avoir un métier d'actionnaire. Aujourd'hui, je peux devenir actionnaire d'une certaine manière ?
Il y a plein de façons d'être actionnaire. On peut commencer par le love money, en soutenant son beau-frère, son frère ou sa sœur, en créant sa petite entreprise. On peut investir dans le crowdfunding, on peut investir dans des fonds d'investissement et on peut être actionnaire, on peut même être actionnaire d'Euraseo en achetant des actions d'une société dont le métier est d'être actionnaire de plein d'entreprises.
Elisabeth, justement, les fonds d'investissement français, il y en a beaucoup. Hein.
Alors en France, il y a 300 fonds environ. Le fonds qui sert justement bien à donner des outils, hein, à mettre l'expertise du fonds au service d'une entreprise. Et l'objectif du fonds est clair, je crois que vous n'allez pas me contredire, hein, c'est un retour sur investissement, évidemment, de 4 environ, de facteur 4.
Non, 4, c'est déjà énorme, ça serait beaucoup. Non, le facteur, c'est entre 1,5 et 2. Je crois que ce qui est important, parce que la plus-value, le gain financier, il faut le remettre au regard de deux éléments, le facteur de risque et aussi le facteur temps. Parce que gagner 2 ou gagner 3 en 15 jours, ce n'est pas la même chose que de passer 5 ans ou 10 ans à accompagner la transformation d'une entreprise. Et l'univers dont vous parlez, des sociétés et des fonds d'investissement qui accompagnent la transformation des startups, des PME et des ETI, accompagnent sur des périodes longues.
Sur du long terme.
Vous assurez finalement la viabilité de l'entreprise, celle dont vous allez parfois mettre le pied à l'étrier. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous choisissez justement les gens pour lesquels vous avez un coup de cœur? Comment ça fonctionne?
Alors, ça commence par un coup de cœur et ça se termine par un coup de cœur. Puis au milieu, on est rationnel. Mais je pense qu'on ne peut pas faire correctement ce métier d'actionnaire d'entreprise si on n'aime pas les entreprises et les entrepreneurs. Nicolas Dufour parle parfois d'une psychobanque au sens accompagnement psychologique des entrepreneurs. Ben, nous sommes des psycho-actionnaires. C'est-à-dire qu'au-delà d'apporter 1, 2, 5, 10, notre fonction, elle est aussi d'être au contact quasiment au quotidien avec les dirigeants, les équipes de management, pas pour les contrôler, mais pour les accompagner dans le chemin de la transformation. Et ce chemin de la transformation, c'est leur envie, soutenue par nos moyens financiers et industriels.
Que dit le coach?
Justement, quand Euraseo ou un autre fonds regarde une société, on imagine plein de paramètres. Dans un monde aujourd'hui qui bouge énormément, qui se complexifie, vous l'avez tous les deux évoqué, quelles sont les priorités que Euraseo regarde aujourd'hui, qui vont lui donner confiance, qui vont rationaliser le coup de cœur et qui vont contribuer au coup de cœur en termes de thématiques ou de sujets?
Alors, il y a deux aspects. Il y a le métier en lui-même et puis le dirigeant. Un dirigeant d'une entreprise, c'est un sportif de haut niveau. C'est très physique parce que c'est très dur, parce que c'est pas sur une plage horaire très courte, c'est du 24-24 et parfois 7 jours sur 7. Donc, est-ce que l'individu qui anime ce projet d'entreprise a l'étoffe physique, intellectuelle, morale pour ce chemin très complexe, puisque effectivement, on est dans un moment de l'histoire économique où tout est chahuté. Il n'y a pas un paramètre qui est stable. Et donc, on peut s'interroger comment est-ce qu'on peut être actionnaire d'une entreprise à 5 ou 10 ans quand il y a autant de changements devant nous. Donc, on fait des études qui sont rationnelles sur l'instant et on essaie de se projeter et d'intégrer des paramètres comme des nouveaux paramètres environnementaux,
tout
les paramètres
éthique,
sociaux.
Tout ce qui est durable, par
exemple.
Exactement,
qui font partie à la fois de la sélection et aussi de la feuille de route de transformation. Il faut grandir, plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité. Mais quelle rentabilité soutenable, durable, l'entreprise, son modèle, son management est capable de mettre sur la table.
C'est très beau, vous dites, notre métier, c'est financer les Christophe Colomb de demain. Ça veut dire qu'il y a une vraie part de risque. Hein.
Mais
on les laisse découvrir la suite, inventer la suite.
Il y a une part de risque, elle est assumée, et c'est en ça qu'elle est différente du métier de banquier. Il faut absolument valoriser le métier de banquier, qui est un prêt par rapport à quelque chose que l'on connaît.
Mais vous allez
et
vous le prendre le risque qu'eux ne vont pas prendre.
On est totalement complémentaire du métier de banquier. Il y a des choses qui se financent avec un prêt et des choses qui se financent avec cet aléa de risque contre lequel, évidemment, on va chercher une rentabilité plus élevée puisqu'il y a plus de risques. Et donc, ce qui est important, c'est de rencontrer des gens qui ont envie de changer le monde. Alors, on change le monde parfois dans son quartier, parfois dans sa région, et puis parfois en traversant les frontières et en accompagnant des croissances. Et je pense que c'est très important de dire que nos entrepreneurs français, on a la chance d'être dans un pays, les créations d'entreprises le témoignent, où la dynamique de création d'entreprises est très forte. Et tout l'enjeu, c'est de passer à l'étape d'après et de faire grossir ces entreprises. Nicolas Dufour évoque souvent la France banzai et la France ça me suffit. On cherche les entrepreneurs pour qui ça ne suffit pas et qui, avec notre soutien, vont changer des choses.
Vous parliez justement de création d'entreprises. On a les chiffres, hein, Elisabeth.
Oui, en 2018, 691 000 entreprises créées. Ce sont 100 000 de plus qu'en 2017. Et 2017, en 2017, on avait déjà atteint le plus haut niveau depuis 2010.
On reste ensemble, on continue à parler de ceux qui aident justement nos entreprises françaises aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et si les entreprises s'aidaient aussi entre elles ? C'est ce que fait le réseau Entreprendre. On les découvre ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Qui sont ces organismes qui aident à faire grandir nos entreprises ? Vous nous les faites découvrir aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous les recevez. C'est La France qui bouge, c'est tous les jours comme ça de 13h à 14h. Et vous pouvez réagir, vous pouvez participer à cette émission. N'hésitez pas, vos questions, vos réactions, vos témoignages. 3921, le standard, et hashtag Europe 1 pour Twitter.
Qui mieux qu'un chef d'entreprise pour connaître les difficultés d'un autre chef d'entreprise ? C'est en partant finalement de ce constat qu'on est plus fort à plusieurs. Qu'est né le réseau Entreprendre. Bonjour Olivier de la Chevannerie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes à la tête du réseau depuis le mois de juin 2018. En parallèle, vous êtes aussi le PDG de Sigmatel. Réseau Entreprendre, c'est dans le Nord, si on fait un petit peu d'histoire, que ça prend racine avec André Mullier qui, à l'époque, voit un nombre considérable de licenciements partir hein, de chez lui, de chez Fildar. Et il se dit, il faut créer de l'emploi, mais pour créer de l'emploi, il faut d'abord créer des employeurs. C'est la maxime.
C'est exactement ça. Nous avons la conviction chez Réseau Entreprendre que les entrepreneurs doivent être accompagnés pour créer de l'emploi. Et vous savez, un entrepreneur qui se lance, un nouveau chef d'entreprise, en fait, il a un projet passionnant, il a un projet de développement, il a un projet de création d'emploi, mais finalement, il ne connaît pas bien le métier de chef d'entreprise. Et donc, l'idée géniale de Réseau Entreprendre, c'est d'accompagner ces nouveaux chefs d'entreprise par des chefs d'entreprise qui ont 5 à 10 ans d'avance sur eux.
On est en 86 quand démarre l'aventure. Comment est-ce que ça se développe ? Comment est-ce que vous arrivez à faire venir justement des chefs d'entreprise pour commencer ce cheminement de Réseau Entreprendre ?
En fait, Réseau Entreprendre repose sur des valeurs qui sont on s'intéresse aux personnes et on s'intéresse au développement de l'emploi sur les territoires. À partir de ce moment-là, mobiliser des chefs d'entreprise sur des valeurs comme celle-là, ça n'a pas été un problème. Donc il y a eu d'abord un réseau Entreprendre dans le Nord, puis ensuite en Rhône-Alpes, puis ensuite à Atlantique, à Nantes, et puis ensuite, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 120 implantations.
8500 chefs d'entreprise, c'est ça ?
Nous sommes 8500 chefs d'entreprise bénévoles au service du développement de l'emploi dans les territoires. Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous qu'on ne va pas trouver ou qu'on n'aura pas forcément à la BPI France ou chez Euraseo ? C'est un autre type de service ?
En fait, les gens qui viennent nous voir, ils viennent chercher un accompagnement. En fait, l'idée, c'est que quand je me lance dans mon projet, en fait, j'ai de belles idées. Une belle idée, ça ne fait pas toujours une belle entreprise. Une belle idée, il faut arriver à la structurer, il faut arriver à aller jusqu'au bout pour finalement arriver jusqu'aux banques et leur demander de prêter pour cette idée. Et donc, finalement, les gens viennent nous voir en nous disant, comment est-ce que je vais pouvoir... développer mon entreprise, aller au-delà de l'idée que j'ai au départ.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prêtez de l'argent. Vous, entrepreneurs, réseau d'entrepreneurs, vous prêtez de l'argent gratuitement à d'autres chefs d'entreprise ?
Alors, en fait, nous avons trois types d'accompagnement. Le premier, c'est que nous allons accompagner la personne par un chef d'entreprise, la faire accompagner par un chef d'entreprise. Donc, ce n'est pas un sachant qui apprend à un non-sachant. Le chef d'entreprise, il a simplement 5 à 10 ans d'avance sur le projet. Donc là, le chef d'entreprise va l'accompagner, va lui éviter certains écueils. Le deuxième accompagnement, c'est un accompagnement collectif. C'est-à-dire qu'on va permettre au chef d'entreprise de se retrouver avec d'autres chefs d'entreprise qui en sont au même niveau de leur projet, c'est-à-dire dans les 2-3 premières années. Et le troisième accompagnement, effectivement, c'est un accompagnement financier. Nous prêtons à peu près 30 000 euros moyens par projet. Mais l'intérêt de cet accompagnement financier, c'est qu'il a un effet de levier auprès des banques, puisque lorsque Réseau Entreprendre prête 30 000 euros à un lauréat,
elle se dit on peut avoir confiance.
x10 ou x15. C'est-à-dire qu'avec 30 000 euros, je peux lever entre 300 et 400 000 euros auprès des banques.
Le coach, Sylvain Lambert.
Oui, oui. Combien de temps dure l'accompagnement ? C'est-à-dire, c'est jusqu'à un certain stade de développement. C'est ma première question, je fais deux pour le prix d'une. Et la deuxième, c'est le taux de succès, parce que le nombre d'entrepreneurs accompagnés est extrêmement impressionnant. Et est-ce que vous avez une idée dans la durée, justement, du succès de votre accompagnement ? c'est-à-dire ceux qui ont grandi, qui se sont parfaitement développés.
Alors, le taux de succès, c'est quand même notre fierté, c'est-à-dire que nous accompagnons 1500 entreprises par an et les entreprises créent à peu près en moyenne 13 emplois. Et ensuite, la moitié de ces 1500 entreprises font plus de 10% de croissance. Donc, nous accompagnons les entreprises à la croissance. Mais surtout, à 5 ans, nous avons un taux de réussite qui est de 85%. Alors, on sait que le taux de réussite moyen en France, il est de 55%. Ça veut dire que l'accompagnement des entreprises par Réseau Entreprendre double les chances de réussir.
Et sur la durée, vous êtes combien de temps présent à côté?
Alors, en fait, nous avons plusieurs programmes. Et le premier programme initial, c'est-à-dire celui qu'on donne aux primo-créateurs, aux primo-repreneurs, en fait, il est de 2 ans. Nous faisons accompagner par un chef d'entreprise pendant 2 ans. Mais en fait, nous avons d'autres programmes qui sont de l'accompagnement à la croissance. Et là, ce sont des accompagnements qui se font à plusieurs chefs d'entreprise qui, là, se rajoutent à l'accompagnement du début.
Elisabeth, il y a beaucoup de gens, finalement, derrière les entreprises, hein, pour les aider. Il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, les incubateurs. C'est quoi, rapidement, un incubateur?
L'incubateur, il est soit public, soit privé. Et il aide à créer, à développer en amont, souvent. Il propose, par exemple, l'hébergement dans un espace de coworking, le suivi, l'accompagnement par des experts. Et la durée d'incubation va de 6 mois à plusieurs années. Et parfois, il peut même financer. Donc, vous avez des grands groupes, des banques qui investissent dans leur incubateur. Il y a les incubateurs qui peuvent agir en fonction du secteur d'activité. Par exemple, dans le domaine agricole, vous avez Village Baïséa du réseau Crédit Agricole. C'est un accélérateur qui héberge des startups, notamment dans l'agriculture. Par exemple, dans le domaine du sport, Esport, qui réunit les projets les plus prometteurs dans le domaine des sports en ligne, ou par exemple, tiens, dans l'agroalimentaire, Smart Food, qui s'associe à des industriels comme Carrefour ou Bell pour promouvoir l'innovation de la filière. Et puis, on pense tous aussi à Station F.
Évidemment. On reste ensemble et on continue à débattre sur Europe 1. C'est la France qui bouge.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et on vous attend. Vos questions à nos invités, vos témoignages aussi au 3921 et sur Twitter. À tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Cette émission, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas à réagir, à nous apporter vos témoignages ou à poser vos questions dès maintenant. 39-21, le standard, 50 centimes la minute. On lit également tous vos messages et toutes vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Avec nos invités aujourd'hui, Nicolas Dufourc, directeur général de la BPI France, Olivier Millet, membre du directoire de Razéo, Olivier de la Chevannerie, président du réseau Entreprendre, notre coach Sylvain Lambert, associé au cabinet PwC, et évidemment Elisabeth Assayag sont autour de moi. On a une première question, ou plutôt un premier témoignage justement au 3921, c'est François à Lille dans le Nord qui nous dit « Mon entreprise a été aidée par la BPI, je voulais remercier Monsieur Dufourc, je suis patron d'une PME de 56 personnes et je souhaite dire que c'est bien de pouvoir promouvoir l'industrie, mais il faut aussi dire qu'elle souffre en partie à cause de la taxe foncière et de la CFE, vous êtes taxé 2 fois plus quand vous êtes industriel, il faut que les politiques en prennent conscience. » Science. C'est un beau message que nous envoie François de Lille.
Oui, tout à fait. Non, mais il a raison. Alors, il a pas raison de nous féliciter. Mais on le remercie quand même. Mais il a raison sur les taxes de production, les taxes sur l'industrie. Mais je crois que le gouvernement en est parfaitement conscient. Le sujet, c'est qu'il y a tellement de dépenses à financer dans l'équipe du pays que pour l'instant, les ressources budgétaires ne sont pas là pour pouvoir supprimer ces taxes-là. Mais il faudra les supprimer. C'est indispensable.
Moi, j'ai une question. On a beaucoup de start-up, on a pas mal de PME. Quand on regarde finalement le paysage français, on a très peu d'ETI. Pourquoi? Où est le frein? Parce que quand on regarde l'Allemagne, il y en a 13 000 et chez nous, il y en a 3 fois moins. Qu'est-ce qui se passe?
Une raison fondamentale historique, c'est que les PME n'ont pas pu historiquement accumuler beaucoup de capital. Le capital, j'ai envie de le dire aux auditeurs, c'est bien. C'est formidable, le capital. Parce que c'est avec du capital qu'on peut lancer des projets, faire bâtir des bâtiments, des usines, faire monter des grues. Tout ça, c'est à base de capital. Donc les entreprises familiales allemandes ont pu stocker historiquement beaucoup, beaucoup de... Elles sont d'ailleurs rutilantes aujourd'hui. Hein, voilà. Mais le progrès est en marche, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train d'accélérer la production d'entreprises de taille intermédiaire, à la fois grâce à tout ce qu'on fait en accompagnement. On a créé des écoles pour entrepreneurs, pour les convaincre qu'ils avaient la possibilité de doubler la taille de leur entreprise. Parce qu'il y a quand même ça dans la tête. Hein. Beaucoup d'entre eux pensent ne pas être capables. Et puis par ailleurs, avec le capital investissement, ici Olivier Millet présent, on a les moyens de mettre beaucoup d'argent au travail.
Ouais, Olivier Millet, vous confirmez, il y a des freins qui sont en train de se lever.
Alors les freins sont en train de pardon, de se lever, évidemment. Le frein dans les têtes,
oui, psychologique.
Mais il y a aussi les masses de capitaux. Un entrepreneur anglo-saxon, dans son développement, va recevoir 5 à 10 fois plus de capitaux. Et après, à intelligence et à engagement identique, la trajectoire de croissance ne sera pas la même. Donc, est-ce que la France est capable d'apporter 1 million, 10 millions, 100 millions à une entreprise? C'est ça qui est fondamental. Et là-dessus, en 30 ans, toute une industrie du capital investissement s'est développée. Euraseo fait partie des leaders de ce marché, mais on a parlé des 300 sociétés et fonds d'investissement qui, collectivement, ont engagé 14 milliards d'euros en 2017, dans les entreprises non cotées françaises, à tous les stades, des startups, des PME, des ETI. Le match ETI, c'est probablement un des matchs économiques les plus importants pour la France. Il y a les startups, mais la transformation PME-ETI est absolument fondamentale.
Elisabeth,
y a-t-il des secteurs d'activité que vous financez plus particulièrement en ce moment? Qu'est-ce qui ressort en ce moment?
J'ai envie de dire non, parce qu'il n'y a pas de mauvais secteurs. Il y a des secteurs qui sont en train de disparaître. Il y a des secteurs à très forte croissance.
Lesquels, par exemple?
Pardon?
Lesquels?
Alors, tout ce qui tourne autour de l'univers du digital, c'est un peu une évidence, fabrique des entreprises qui sont sur des pentes de croissance absolument remarquables. Mais si on est dans le médical, dans tout ce qu'on appelle le medtech, on a des entreprises d'origine française absolument remarquables avec de la vraie industrie. On est, nous, par exemple, actionnaires d'une société qui s'appelle InTech Medical, qui faisait 50 millions d'euros il y a 3 ans, qui va franchir les 100 millions, dont 60% désormais aux États-Unis. Mmh. Pour faire ça, qualité du dirigeant, qualité de l'entreprise, mais mise à disposition de cette entreprise de beaucoup de capitaux, fonds propres, dettes, pour accélérer la croissance.
Je crois que du côté de la BPI, vous avez lancé la Deep Tech aussi, hein, il y a une quinzaine de jours. Oui. Alors c'est un peu le même profil. Là, on est en train d'aller chercher l'équivalent de 2000 startups dans justement ce domaine de la recherche.
Absolument, c'est encore autre chose. Ça. C'est-à-dire que dans notre économie française, dans notre société française, vous avez des trésors cachés.
Oui.
Et on a un trésor de science dans les universités, dans les centres hospitalo-universitaires, dont la traduction économique en forme d'entreprise. Honnêtement, aujourd'hui, je ne fais que répéter ce que disent certains d'entre eux, est lamentable. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait des brevets, mais on ne fait pas des boîtes. Et nous, BPI France, on a décidé qu'on allait faire des boîtes. Donc, on remonte vers le monde de la blouse blanche. On va créer des écoles pour entrepreneurs-chercheurs. On va mettre du capital avec eux pour qu'ils créent leur entreprise. On va faire tout le travail psychologique consistant à les convaincre que chercheur, c'est formidable, mais entrepreneur, c'est top. Et ne pas avoir peur, surtout. Surtout jamais, on a trop peur en France, beaucoup trop peur. Donc on veut faire 1500 startups deep tech.
Vous êtes d'accord, hein, entrepreneur, c'est top.
Entrepreneur, c'est magnifique. Alors je rebondis simplement sur l'histoire de l'ETI, parce que j'ai eu la chance de créer il y a 15 ans, et aujourd'hui nous avons une ETI, Cimatel est une ETI, c'est une ETI qui a grandi avec ses partenaires bancaires, qui a grandi avec ses salariés, puisque nous avons une partie de nos salariés qui sont actionnaires. Voyez, on arrive en France à faire des ETI familiales, je ne sais pas si ça va moins vite, si elles sont moins nombreuses qu'en Allemagne, mais on y arrive très bien.
On y arrive très bien et on va continuer à le faire. Un mot peut-être du coach?
Il y a un profil d'entrepreneur, à tous les trois, vous les voyez tous. On a tendance à voir beaucoup de jeunes très souvent, mais est-ce qu'il y a tout aujourd'hui sur la table? Ou il y a quand même un profil?
Ah non, mais moi je peux vous parler des entrepreneurs que nous accueillons. Oui, ça commence à 25 ans et ça finit à 60. Jamais, quoi. Tout le monde entreprend.
Oui, il suffit d'avoir un beau projet, hein, finalement.
Oui, je pense que l'entrepreneur, en fait, il a l'envie en lui, quoi. Donc, en fait, tout ce qui est autour, ce n'est pas son problème d'âge, ce n'est pas la conjoncture économique. Il a envie d'y aller, quoi. Et l'intérêt, en fait, de récupérer chez Réseau Entreprendre ces gens-là, c'est qu'ils ont envie d'y aller et nous, on va les aider à concrétiser cette envie qu'ils ont au fond d'eux.
Et on espère qu'on aura donné envie, en tout cas à ceux qui hésitent encore à se lancer, de le faire, de devenir entrepreneur, parce qu'il y a des champs à explorer. Il suffit
et de grandir.
Et oui, et à les aider à grandir. Et il faut y croire, et c'est ce que vous faites. Merci pour eux, et merci d'être venu aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37. Europe 1.
Ils ont formé 8 millions de couples depuis leur création. Mythique est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec, comme chaque jour, la découverte de l'entreprise française qui va bien, Raphaël Duchemin. Et en cette veille de Saint-Valentin, cette entreprise, elle va très bien même.
Oui, vous avez vu Electrico Romantico pour parler juste après de Mythique. Bonjour Sophie Agazzo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente Europe de Mythique. Dites-moi, en 18 ans, Mythique est devenu totalement incontournable. 8 millions de couples formés grâce à votre intermédiaire, ça fait du monde.
Oui, oui, ça fait du monde. Après, au-delà des 8 millions de couples, je pense que c'est très concret quand on sait qu'un Français sur 4 connaît quelqu'un qui s'est rencontré sur nos services. C'est quelque chose de très concret qui se traduit aussi par tous les faire-part de naissance, de mariage qu'on reçoit tous les jours.
Vous en recevez
au travail, absolument.
Que se passe-t-il, dites-moi, au départ, dans la tête de Marc Simoncini quand il a l'idée de lancer Mythique? Qu'est-ce qui lui prend?
Alors en fait, d'après ce qu'il nous a laissé, il est dans des dîners où il y a de plus en plus de célibataires, de divorcés. Hein, clairement, il y a une évolution de société d'abord. Et il voit que ces célibataires ont du mal à rencontrer des nouvelles personnes. Donc il se dit, bon, bah, il y a une mission pour une entreprise qui est de faire en sorte que chacun trouve la personne qui lui correspond. Et donc, il crée ce service vraiment en partant du célibataire. C'est quelque chose qui est fondamental pour
nous. Un besoin réel.
Voilà, parce que ça reste dans un environnement où les technologies évoluent très vite et où on a de plus en plus de data. En fait, ça, le fondamental pour nous, c'est toujours de faire en sorte que les services soient créés par et pour les célibataires, en fait. Donc, c'est
ce
central.
Fondamental-là, il n'a pas changé. Le Mythique du départ, pourtant, il est plus du tout ce qu'il est aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué.
Oui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir toujours la notoriété qu'on a. 99% des Français nous connaissent et de continuer d'exister auprès des célibataires. C'est depuis 18 ans, il y a 2000 sites de rencontres qui sont créés en France. Et pour autant, on est toujours là parce qu'on diversifie et qu'on innove.
Mais vous êtes restés des généralistes, j'ai envie de dire, de la rencontre. C'est aussi ça qui fait votre force aujourd'hui. Il y a aussi autre chose, c'est que vous êtes payant, alors que beaucoup d'autres sites sont gratuits. Est-ce que les gens se disent, si on va sur Mythique, du coup, c'est peut-être un peu plus sûr parce que je dois mettre de l'argent?
Alors oui, définitivement, le fait d'avoir toujours choisi de rester un service payant, c'est une forme, pour nous, c'est un gage d'engagement et de sérieux de la part des personnes qui s'inscrivent à nos services. Et puis nous, ça nous permet aussi d'encadrer avec un service de qualité. On a un service client qui répond 7 jours sur 7 à nos inscrits. Ça fait partie, bien évidemment, de nos fondamentaux également. Et c'est ce qui est resté depuis 18 ans.
Sophie Agazzo, quand on est chez Mythique, on est présent dans 15 pays en Europe, on est un géant français, il y a 300 personnes, hein, je crois, qui travaillent au siège ici à Paris. Ça reste français, clairement, parce que ça a été créé par un Français aussi, mais vous avez été racheté en 2011 par des Américains qui sont les leaders sur le marché de la rencontre, c'est eux qui ont aussi Tinder. C'est quelque chose qui est possible, du coup, de mixer les deux?
Oui, parce qu'en fait, une des clés du succès de Mythique en Europe, donc effectivement, vous l'avez dit, 300 personnes basées à Paris qui opère pour 15 pays européens. Une des clés, c'est de s'adapter aux cultures locales. On ne rencontre pas quelqu'un de la même façon en Allemagne, en Espagne et en Norvège aujourd'hui. Et ça a été vraiment une des clés de notre développement dans cette internationalisation. Aujourd'hui, à Paris, vous avez des Allemands, des Italiens, des Espagnols qui vivent et qui travaillent à Paris pour développer nos services dans leurs pays respectifs.
Une question de notre coach, Sylvain Lambert.
Oui, Tous ces éléments de rencontre digitaux entre les gens aujourd'hui posent aussi la question de la confiance, vous l'avez un peu évoqué. Et qu'est-ce qui fait que si je vais sur Mythique, je vais avoir plus confiance? Vous évoquiez le prix, mais je vais finalement y mettre une grande part de mon intimité. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne sera pas partagée soit commercialement, éventuellement, soit de façon quasi trahie par un incident sur la sécurité de Mythique? Est-ce que je peux le voir dès que je rentre? Ou pas du tout?
Est-ce que j'ai des gages de sécurité?
Oui, voilà. Est-ce qu'on m'en informe? Est-ce qu'on me dit...
Alors oui, effectivement, il y a plusieurs choses. Tout n'est pas du fait du modèle économique, mais effectivement, ce modèle économique est très important pour nous parce qu'en fait, on ne vit pas de la... On n'a pas de modèle publicitaire, on ne vit pas de la revente des données de nos membres. Et donc ça, c'est un point important. Et c'est pour ça qu'on fait payer nos services. C'est qu'effectivement, les données qu'on récolte sont uniquement pour servir l'objectif de la rencontre. Donc ça, c'est un point très important. Après, sans rentrer dans les détails techniques, notre modèle, c'est que vous pouvez vous inscrire gratuitement, voir... voir quels sont les membres qui sont présents, et c'est pour communiquer que vous allez payer. Donc vous avez cette approche qui est vraiment d'abord d'entrer, de voir ce qui s'y passe, et ensuite c'est vous qui décidez de souscrire à un abonnement pour pouvoir communiquer avec les autres membres.
Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a 10 ans, on était sur de la rencontre rapide. Aujourd'hui, on a le sentiment que la tendance est en train de s'inverser. Vous vous adaptez aussi à ce changement de société ?
Oui, absolument. Donc effectivement, il y a d'abord, le fait d'être ouvert à tous et de s'adresser à tous les Français et à tous les Européens, quel que soit votre âge, votre localisation, etc. Donc, il y a 2 millions de personnes qui s'inscrivent en France chaque année. Donc, c'est aussi un gage, on va dire, de confiance. Ça va en continuant. Et effectivement, parmi nos axes de diversification, on a créé cette année un service qui s'appelle Affini, qui correspond aussi à cette tendance du slow live, du slow dating, où pour une partie des célibataires, on a envie de plus cliquer à la chaîne et d'en savoir plus sur soi. Donc il y a des tests de personnalité qui vous permettent effectivement d'en savoir plus sur vous.
Merci Sophie Aguazzo d'être venue nous parler de Mythic, c'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Restez avec nous, vous ne voulez pas donner, tiens, votre 06, pourquoi ne pas utiliser un numéro éphémère ? C'est ce que propose Ligne Bis, c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et voici la solution du jour, Raphaël Duchemin.
Connaissez-vous le numéro de téléphone virtuel ? Ce numéro permet de rester joignable sans dévoiler pour autant votre numéro de téléphone. Elisabeth, c'est très pratique, hein, surtout si on est énormément sur sites en ligne.
Oui, vous Raphaël, nos auditeurs, moi, nous avons tous effectué une réservation sur Internet. Je ne parle pas du site de rencontre en ligne, hein. Je parle de, par exemple, une annonce sur Le Bon Coin ou encore louer un logement pour les vacances. Et qui d'entre nous n'a pas hésité à un moment ou à un autre de dévoiler son identité, notamment son numéro de téléphone. Donner ses coordonnées téléphoniques à des inconnus, ce n'est pas évident, ce n'est pas dénué de risques. Et c'est face à ce constat que Neocom Multimédia a lancé Ligne Bis. C'est un numéro de téléphone 100% virtuel, éphémère. Rien de plus simple, il suffit de le communiquer à la place de votre vrai numéro de téléphone pour que votre vie privée soit totalement protégée.
Bonjour Didier Darderian.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. On fait comment, dites-moi, pour la mettre en place là tout de suite, cette ligne Bis ?
Alors justement, c'est ce qui nous caractérise. C'est un produit qui est très simple à mettre en place, une minute. Il suffit d'appeler alors un numéro de téléphone qui est le 3636.
Qui lui est toujours le même, hein. Il ne disparaît pas.
Il est facturé directement, il coûte 3 euros l'appel. Et vous recevez de manière instantanée, dans la minute, un numéro de téléphone qui est directement configuré. Donc vous recevez ce numéro par SMS, donc directement configuré sur votre mobile. Donc vous pouvez le communiquer de manière instantanée sur un site effectivement d'annonce ou quel que soit. Alors ça peut être aussi dans le cadre professionnel. C'est un numéro qui est valable 15 jours, qu'on peut renouveler. Il n'y a pas d'abonnement, c'est-à-dire que si la personne ne fait pas une démarche de le renouveler, il tombera. Donc si j'imagine que je passe une petite annonce et que j'ai vendu mon bien, le numéro peut tomber. Et s'il n'est pas vendu, je peux le renouveler par période de 15 jours.
Et quand on renouvelle, ça coûte 3 euros ?
Exactement, toujours. Donc il y a en prévision une application mobile qui est prévue en mars-avril, puisqu'on a de plus en plus de demandes d'abonnement définitive. Et donc, naturellement, on le fera via une app.
Mais aujourd'hui, pour une fois, aucune application à télécharger, là ?
Non, aucune application à télécharger. C'est ce qu'on voulait. Sans connexion Internet. On voulait vraiment quelque chose de très simple, accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas formé aux applications mobiles peut tout simplement prendre un numéro. Il suffit qu'il ait un téléphone portable. Mais aujourd'hui, je crois que la population...
Pas de ligne fixe. Ça marche seulement pour les numéros de téléphone portable. Et alors, pourquoi vous avez pensé à cela ? Vous arrivez quelques jours
souvent, c'est un besoin personnel quand on passe une annonce.
Ça vous est arrivé ?
Notamment pour un site de petites annonces sur Le Bon Coin où on vend un bien, ou que ce soit une voiture ou des objets divers ou de la location immobilière. On est souvent après submergé d'appels ou de SMS. On est tracé. Le numéro est souvent utilisé après, même on reçoit du spam souvent après. Donc, c'est venu d'une utilisation personnelle, en fait, d'un besoin personnel.
Le coach, Sylvain Lambert.
Fascinant, mais comment vous faites pour vous assurer que ce n'est pas des fous qui vont... Par exemple, je vais me servir d'un numéro virtuel pour harceler des gens, donc personne ne pourra me tracer. Et donc,
ah oui,
est-ce
vous
qu'il
faites
y a
à l'envers, vous.
Je le fais à l'envers, c'est peut-être mon esprit qui est à l'envers aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un dispositif où le fait que le numéro soit éphémère, ça peut aider mais
Oui, le numéro est virtuel, mais il existe quand même. Donc, il est rattaché à votre numéro de mobile. Et donc,
ça veut dire que s'il y a problème, on peut s'adresser
exactement.
À vous.
Bien sûr, tout à fait.
Par vous.
Et exactement, on trace. Et aujourd'hui, un numéro de téléphone ne peut pas être dans la nature comme ça. C'est-à-dire, même un numéro de mobile, il est rattaché à des opérateurs. Donc, on vient vraiment se coller sur le téléphone, sur un abonnement existant aujourd'hui.
Anissa, voilà.
Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut uniquement recevoir des appels et des messages sur ce numéro de téléphone ou est-ce qu'on peut en émettre aussi?
On peut en émettre. Donc, l'application va permettre de simplifier. Aujourd'hui, c'est possible. Vous accédez à une sorte d'interface, c'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone mobile, vous imaginez que vous avez déjà votre ligne bis. Si à partir de votre numéro de téléphone mobile, vous appelez votre numéro ligne bis, vous tombez sur savoir si vous avez des messages. Et vous pouvez effectivement rappeler une personne à ce moment-là.
Et avec numéro ce numéro-là.
Et voilà, le numéro s'affichera.
C'est donc le téléphone virtuel Ligne Bis. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Sylvain qui était notre coach aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain. Ce sera la Saint-Valentin. Et nous parlerons des fleurs.